La question du jour, c'est simple, c'est chaque jour une question à laquelle vous êtes amené à répondre et puis on en parle avec un invité. La question d'hier pour aujourd'hui était la suivante. La violence est-elle devenue naturelle pour les antifas et l'ultra-gauche? Oui ou non? Et il y a vraiment pas photo. Vous êtes 96% à penser que oui sur Insta, 97% sur Facebook et 100% sur X. On va voir si notre invité est d'accord avec nos auditeurs. Lise, on reçoit ce matin, vous recevez ce matin, Barbara Lefebvre, elle est enseignante et essayiste française. Je vous laisse parler de tout cela avec elle.
Barbara Lefebvre, bonjour.
Bonjour Lise.
Avez-vous l'impression, Barbara, comme nos auditeurs, que la violence est devenue quelque chose de naturel pour l'ultra-gauche?
Mais c'est pas seulement naturel, c'est intrinsèque. À l'ultra-gauche, comme d'ailleurs à l'ultra-droite, mais aujourd'hui c'est l'ultra-gauche qui nous intéresse en particulier pour ce qui concerne la communauté juive en Europe. Le recours à la violence, que ce soit une violence symbolique ou une violence directe, sous la forme d'affrontements physiques, de sabotage, etc., ça fait partie des moyens de l'ultra-gauche, des moyens de la gauche révolutionnaire, pour aboutir à la réalisation de leurs objectifs politiques. Donc, ils sont dans une logique, qui est une logique idéologique fondée sur un principe qui s'appelle la logique de résistance, et pour eux, qui est un peu leur mot valise, hein, puisque leur grand objectif, c'est la lutte contre à la fois les injustices structurelles créées par le monde capitaliste, et d'un autre côté, lutter contre l'extrême droite. Donc, c'est leur mantra. Pour ce faire, dans cette logique de résistance, la violence, l'intimidation, parce que la violence verbale et la violence par l'intimidation est également un moteur de l'extrême gauche. Et aujourd'hui, il y a vraiment un espace pour eux qui s'est ouvert, qui est un espace nouveau qu'on ne connaissait pas à l'époque des fractions armées rouges, des brigades rouges, d'action directe, de tous ces mouvements-là, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle façon pour les groupuscules d'ultra-gauche poursuivre leurs objectifs par la violence, c'est les réseaux sociaux avec des raids d'intimidation, des raids de menaces, ce qu'on appelle le doxing, c'est-à-dire la révélation d'éléments de la vie privée pour intimider les adversaires. Donc ils ont vraiment aussi beaucoup avancé dans leur méthode d'action violente et ils utilisent aussi parfois des proxys, notamment par exemple certains syndicats d'extrême gauche qui au sein d'un certain nombre d'entreprises, notamment dans les médias, vont agir de façon à intimider tel ou tel journaliste, telle ou telle personne publique. Oui, bien sûr que la violence est non seulement inhérente, mais c'est même le moteur de l'action politique de l'extrême gauche.
Alors Barbara, ce qu'on constate, c'est que là vous parlez aussi de menaces, il y a eu des menaces de mort, mais on comprend qu'il y a une violence aussi physique et qu'elle n'est même pas vue comme un dérapage. Alors je vous prends juste un exemple belge la semaine dernière, c'était jeudi à Liège, il y avait des membres du mouvement réformateur, du MR, qui est donc à droite, qui ont reçu un comité d'accueil avec 500 manifestants et il y a beaucoup de membres du MR qui, en tentant d'entrer dans l'endroit où ils devaient intervenir, se sont pris des coups et des insultes et plusieurs policiers ont même été blessés. Et le lendemain, quand on parlait de ces manifestations, ils trouvent que c'est tout à fait logique parce que ce sont, selon eux, uniquement une lutte antifasciste. Et donc, ça leur permet en fait toutes les écarts, de traiter Israël de partitionniste qui dérive vers le fascisme, leur donne droit finalement à tout.
Bien sûr, puisqu'en fait, si vous voulez, c'est l'héritage historique, c'est l'héritage historique de l'ultra-gauche. L'ultra-gauche, elle se base sur cette idée, et c'est les théories marxistes, léninistes, etc. Il y a une urgence, c'est maintenant tout de suite qu'il faut lutter contre la démocratie dévoyée, car elle est aux mains de tel ou tel groupe, de tel ou tel lobby ultra-capitaliste qui sont en train de détruire la société. La légitime défense de ces moyens d'action est pour eux une évidence puisque ils sont face à un système oppressif. Je disais toujours leur discours, hein. C'est d'ailleurs pour ça, on y reviendra, que le palestinisme constitue vraiment un des éléments structurants aujourd'hui de la pensée de l'ultra-gauche parce que ça résume tout. C'est-à-dire vous avez à la fois la pensée décoloniale, vous avez la pensée anticapitaliste, vraiment la figure d'Israël et la figure du juif, pour eux, ça rassemble tous les éléments de leur haine structurelle. Donc là, pour eux, c'est de la légitime défense. Ils luttent pour le bien. C'est-à-dire que vous avez affaire à des gens qui sont persuadés d'agir pour le bien de l'humanité, pour sauver l'humanité de l'injustice, la sauver du racisme structurel, la sauver l'emprise du capitalisme qui tue les vies, etc., etc., puisque leur discours, c'est toujours ça, hein. On tue les corps, on tue les vies. Enfin, vous voyez, même la façon dont, par exemple, en France, Sandrine Rousseau parle quand elle disait on s'empare de nos corps. Enfin, ils ont toujours une espèce de dialectique qui est très englobante, hein, puisque c'est vraiment une pensée totalitaire. Et donc, ils ont toujours une perception qui est l'urgence. Et donc, à cette urgence, il ne peut y avoir que de la violence. Et donc, évidemment, que pour eux, cette violence, elle est absolument légitime, puisque leur combat, c'est le combat le plus juste qui existe, puisque c'est un combat, entre guillemets, de libération, et c'est un combat de résistance. Donc, c'est pour ça que les termes qu'ils utilisent sont trop peu contestés, et il faudrait un travail véritablement approfondi et quotidien et permanent de la part d'un grand nombre des journalistes mainstream qui reçoivent des membres de l'extrême gauche ou de partis d'extrême gauche sur les plateaux télé, que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs, pour à chaque fois travailler sur les mots. Parce que quand on laisse pendant des années et des années des gens comme ça, depuis Sartre, depuis Jean Genet, etc., expliquer que la plus extrême des violences, voire le recours à la torture, à l'intimidation, à l'extermination de l'ennemi, constitue le contraire même de la démocratie, et qu'on ne le discute pas, de la même façon que depuis des mois et des mois, personne ne discute des gens qui viennent nous dire qu'il y a un génocide en cours à Gaza. Bon, vous avez des intellectuels, bien sûr, qui le contestent dans la presse, mais sur les plateaux télé, on voit bien que les journalistes ne le croient pas, mais n'ont pas envie d'aller se battre et d'aller croiser le fer sur des questions sémantiques. Or, avec l'extrême gauche, qui est assez, pas forcément la base, mais il y a quand même un fondement intellectuel très fort, un fondement philosophique et intellectuel très fort, dans le marxisme, dans le léninisme, le trotskisme, etc. Si vous ne travaillez pas à retourner la sémantique et à montrer à quel point ils utilisent les termes de liberté et de résistance pour les dévoyer, si vous ne faites pas ce travail, vous continuez à les laisser alimenter chez la jeunesse, un espèce d'idéalisme un petit peu puéril et infantile, parce qu'on va le dire quand même, hein, les rangs de l'extrême gauche, c'est quand même beaucoup des jeunes. En général, quand on vieillit, c'est pas forcément qu'on s'en bourgeoise, mais enfin, quand on vieillit, on commence à regarder le réel et on n'est plus tellement dans l'idéal. Et même quand on est un vieux militant comme Monsieur Mélenchon, il se sert de l'idéalisme des jeunes comme de chair à canon électoral. Mais en réalité, lui-même, il vit très confortablement comme un grand bourgeois. Donc, tous ces gens-là, la réalité, c'est que ils utilisent une forme d'idéalisme dans la jeunesse, et la jeunesse, elle est plus prompte à recourir à la violence, parce que ça fait partie aussi de ce qui peut émouvoir la jeunesse. Donc, encore une fois, il faut qu'il y ait un travail dans les universités, un travail dans les écoles, pour amener ces jeunes à regarder le monde et à réfléchir sur le monde, et non pas à être dans une espèce d'élan adolescent et puéril de vouloir détruire un monde, en réalité, dans lequel ils vivent. Et en France, comme en Belgique, je pense, nous en avons toujours la preuve, 90% des Black Blocs sont des enfants bourgeois qui vivent dans les beaux quartiers et qui peuvent se permettre d'avoir cette activité ludique de militantisme Black Bloc, parce que par ailleurs, ils ont l'argent de papa-maman. C'est pas des gars de cité qui constituent les rangs des Black Blocs. Donc, encore une fois, on voit bien là, en réalité, toute l'hypocrisie de ces milieux d'ultra-gauche.
Merci beaucoup, Barbara Lefebvre, enseignante et essayiste française, d'avoir été avec nous ce matin pour cette analyse très claire. Bonne journée à vous et à très vite.
Bonne journée à vous. Au revoir.